Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Après avoir parcouru les univers de cinéastes tels que Jean-Pierre Melville, Quentin Dupieux ou encore Ridley Scott, ce soir nous nous intéressons à un petit documentaire venu d'Asie centrale. Dans Borat, leçon culturelle sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan, nous suivons les déambulations d'un jeune journaliste kazakh au sein des États-Unis. Un documentaire en forme de road trip, explorant les failles du capitalisme en questionnant le rapport des Américains au racisme, à la sexualité et à la culture. À moins que tout cela ne soit qu'une grosse farce potache à 18 millions de dollars, dont le présentateur n'est pas un journaliste parlant kazakh, mais un comique anglais parlant hébreu. Vous l'aurez compris, ce soir nous allons parler de Sacha Baron Cohen et de son cinéma. Et donc pour l'occasion, l'équipe de Vitamine Ciné n'est pas au complet, puisque Adeline se trouve actuellement dans les steppes narbonnaises, un endroit où évidemment Internet ne capte pas. Cependant, je suis en bonne compagnie, car je suis en compagnie de Lucas, grâce à qui, ou peut-être à cause de qui, nous parlons de Borat aujourd'hui. Bonsoir Lucas.
Les deux, bonsoir.
Avec moi, on retrouve aussi Louis, qui s'est plongé ces dernières semaines dans les farces de Sacha Baron Cohen. Avec plaisir, je l'espère. Bonsoir Louis.
Avec grand plaisir, bonsoir Nico.
Et enfin, le cinquième mousquetaire de Vitamine Ciné, Victor à la technique, dont je mets en doute la main innocente qui a pioché Borat lors de la précédente émission. Bonsoir Victor.
Bonsoir, elle était totalement innocente, c'est un hasard, hasardeux.
Hasard, totalement.
Et donc avant de parler de Borat, on va commencer avec un peu de poésie pour fêter l'anniversaire d'un acteur qui aurait eu 99 ans aujourd'hui, l'occasion de revenir sur quelques souvenirs de Serge Reggiani.
Oh, c'est la meilleure. J'ai laissé une godasse dedans.
Alors ? Ouais !
J'en loupe pas une, moi, c'est terrible. Je suis vraiment le dernier. Là.
Non. Je t'aime.
Là, je me demande comment tu fais. Là.
C'est fini, oui ?
Ouais, on arrive !
Donc c'est un extrait de Serge Reggiani dans un film de Claude Sauté, aucun rapport avec Borat, donc à première vue. Donc Reggiani incarne Paul dans Vincent, François, Paul et les autres, dans une scène qui se passe au-dessus d'un lac, où Serge Reggiani tombe dans un lac, ses amis viennent le chercher. Et j'ai choisi cette scène pour introduire cette petite actualité, ce petit anniversaire, car pour moi ça représente assez ce qu'est Serge Reggiani, c'est-à-dire un acteur assez simple en apparence, sympathique, qu'on a peut-être tendance à oublier, mais auquel on pense toujours avec sympathie. Et je recommande d'ailleurs le film de Sauté, donc Vincent, François, Paul et les autres, qui est dispo sur Netflix, et qui est pour moi le plus bel exemple du talent de Reggiani, mais aussi de Sauté. Et donc je vous demande à vous, chers amis, pour vous, c'était quoi Serge Reggiani?
Pour moi, Serge Reggiani, c'était toujours une figure sympathique. Bon, je crois que tous les Serges m'apparaissent sympathiques, mais ça, c'est une autre histoire. Je l'ai souvent vu, jouer des petits rôles dans des grands films. Et à chaque fois, je trouvais qu'il arrivait à apporter de l'éclat à ces petits rôles dans lesquels je le voyais. L'exemple un exemple récent, c'est quand on a préparé notre émission sur Jean-Pierre Melville, dans L'Armée des Ombres. Je trouve, moi, qu'il y a une scène qui apparaît un peu suspendue dans le film. C'est celle où Lino Ventura, qui est un résistant, s'évade de son camp. Et pour échapper à la police... rentre chez un barbier et fait mine de venir pour se faire raser la barbe, et ce barbier c'est Serge Reggiani. Et en fait on voit donc accrocher des affiches pétinistes chez le barbier, tout ça. Donc on sent un peu le malaise dans cette scène. Pour moi, vraiment, elle est comme suspendue. Il y a très peu de mots, très peu de paroles, et Serge Reggiani, il arrive à apporter, comme je disais, tout un éclat comme ça à ce personnage qu'il incarne le temps de d'une seule scène dans le film. Et j'ai adoré, et je trouve que c'est un bon exemple, en tout cas pour moi, de ce qu'était Serge Reggiani, en tout cas dans les films que j'ai vus et dans lesquels il apparaissait.
Et toi Lucas, je crois que tu veux nous parler d'un film qui n'existe pas, mais qui existe un peu en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Mais t'as raison Louis de rappeler le capital sympathie de Reggiani, qui est quand même assez fort. Et moi c'est vrai que je le connais aussi surtout pour sa participation à ce qui pour moi aurait pu être un des plus grands films de tous les temps. J'ai nommé L'Enfer d'Henri Georges Clouzot, qui a été tourné en 1964, et qui est donc, comme tu l'as dit, un film inachevé. Pour lequel on a quand même récupéré beaucoup de rushs qui ont été mis dans un documentaire de Serge Bromberg récemment. Et voilà, c'est un tournage qui faisait partie de ces tournages horribles, un peu à l'Apocalypse Now, mais en plus réservé quand même, où rien ne va, où il y a des problèmes de production, où Clouzot, qui évidemment est un éternel insatisfait, il réveille les techniciens à 3h du mat parce qu'il a changé le scénario au dernier moment. Et justement, Reggiani et Clouzot commencent à s'embrouiller aussi. Il y a d'ailleurs dans ce documentaire, on voit un rush incroyable où Reggiani court pendant, mais je sais pas combien de temps, des heures. Clouzot le fait souffrir, quoi. Et Reggiani, malheureusement, finit dans une sorte de dépression. Il est hospitalisé, mais bon, on sait jamais. Est-ce que c'est de la faute de Clouseau ou pas? Mais voilà, tout ça pour dire que Serge Reggiani a aussi tourné pour des grands, dont Clouseau. Et bah voilà, il avait fait aussi partie de cette histoire du cinéma qui est celle des coulisses et qui est une grande histoire.
Donc voilà, bah c'était notre petit hommage à Serge Reggiani pour ouvrir l'émission. Et une fois qu'on a parlé donc de ses films, de ses grands noms, de Melville, Clouseau, etc., on va parler d'un film qui est peut-être devenu culte, qui date de 2007 et qui s'appelle Borat. Et donc on va écouter évidemment un trailer, un petit extrait en VF, car sinon ça n'a pas de charme.
Маша, мы на Борат, жем ву, жем секс. Все найс. Я сам он пей, ла Казахстан. Ил ситуэ антре Таджикистан и Кыргызстан, и ан киле Узбекистан. Сасы ма вил, кусек. Сасы уркин, виолор до ла вил. Вила, виле.
Donc voilà, Lucas, pourquoi avoir choisi ce film?
Bon, déjà, je tiens à rassurer ceux qui n'ont pas encore vu Borat. C'est une VF, donc c'est un peu douteux. Pour défendre l'acteur qui a fait cette VF, je trouve ça vraiment très dur de doubler ce film. Donc ça va, il est pardonné, mais regardez-le en VO, s'il vous plaît, quoi. Pourquoi ce film? Bah déjà, je vais commencer très rapidement par revenir sur qui est Sacha Baron Cohen, parce que bon, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais comme tu l'as dit, c'est un humoriste britannique qui a une cinquantaine d'années maintenant et qui est juif, je précise, parce que ça aura son importance dans le personnage de Borat. Et donc, Baron Cohen, bah, il se fait connaître dans une émission anglaise où il fait des micro-trottoirs. Et sa particularité, en fait, à Baron Cohen, c'est de créer des personnages. Et mieux que les créer, en fait, il les incarne pour piéger des gens dans des caméras cachées. Donc, il a pu créer le personnage d'Ali G, qui est une sorte de rappeur un peu con. Il y a Bruno, qui est un autrichien homosexuel qui est dans le monde de la mode. Et il y a donc Borat, qui est un journaliste kazakh, qui regroupe un peu toutes les tares de l'humanité, à savoir qu'il est raciste, sexiste et antisémite. Et donc en 2007, Sacha Baron Cohen décide de décliner son personnage de Borat en long métrage. Et ça donne le film dont on va parler aujourd'hui. Donc pour faire un très très court résumé, donc Borat est un journaliste kazakh qui est envoyé avec son producteur aux États-Unis pour y faire un reportage, pour montrer bah, la culture américaine. Et donc évidemment, ça crée plein de situations embarrassantes parce que Borat n'est pas habitué à ce mode de vie. Et effectivement, tu parlais d'un documentaire dans ton introduction, mais évidemment, c'est un faux documentaire. C'est ce qu'on appelle un documenteur ou un mockumentary. Ce qui fait qu'on a des scènes qui sont jouées par des acteurs et d'autres qui sont en fait de pures caméras cachées. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce film. Alors déjà, je crois que c'est la première émission qu'on consacre à une pure comédie. Oui. On a eu Réalité Dupieux qui a un certain aspect comique, mais c'est pas une pure comédie. Et il y a aussi autre chose, c'est que bah, ça fait maintenant plus d'un an qu'on est un peu limité dans nos interactions sociales. Et donc je me suis mis là à regarder beaucoup de caméras cachées, de micro-trottoirs sur Internet, parce que je trouve qu'on manque de ces phrases des gens qu'on peut croiser dans la rue et surtout des réactions des gens. Et l'autre jour, je regardais l'affaire Watts, qui est un documentaire qui est disponible sur Netflix sur un crime qui a eu lieu aux États-Unis et où en fait on a une image d'une caméra de surveillance qui filme donc l'accusé qui dit à son père que c'est bien lui qui a tué. Bon, bref. Donc c'est une image très très forte et François Bégodeau, je recommande d'aller écouter François Bégodeau quand il parle de cinéma, disait que là. Jacques Audiard pouvait aller se coucher, lui qui a travaillé sur la relation père-fils, parce qu'en fait la phrase que ce fils dit à son père, on peut jamais retrouver ça dans un film de fiction, c'est tellement fort, c'est tellement vrai qu'on peut jamais retrouver. Et ben moi j'appliquerais ça aussi à tout ce qui relève de la caméra cachée, ce que je trouve qu'il y a dedans, et j'inclus aussi ce qu'il y a micro-trottoir, je trouve qu'il y a là-dedans des phrases que même le meilleur des scénaristes ne pourrait jamais inventer. Je vous ai juste mis un petit extrait de Loris là qui fait des micro-trottoirs. Et donc il interroge une jeune fille sur ce qu'elle pense de l'euthanasie. Et bah voyez ce que ça donne.
Pour ou contre l'euthanasie?
L'euthanasie?
Oui.
C'est quoi?
Le...
C'est quoi l'euthanasie?
Bah, qu'est-ce que vous reconnaissez comme mot dans l'euthanasie?
Nazi? Ah bah non, je suis contre. Parce que c'est interdit. Mmh. Et moi j'ai peur des Allemands.
Ah ouais?
J'ai peur qu'ils soient encore antisémites.
Je sais pas, je suis pas sur le cas de tout le monde, mais...
Oui, c'est pas sur le cas de tout le monde, c'est vrai. Mais c'était plus sous le régime de Hitler.
Ouais. Ça, c'est vrai que c'était marquant, quoi. Toi, plus tard, tu devrais te faire euthanasier ou pas du tout?
Non, pas du tout, sûrement non. Pas.
Ouais. Pour quelle raison?
Bah, déjà, je suis pas juive.
Et un petit mot, alors, du coup, pour ceux qui sont pour l'euthanasie?
Bah, niquez vos mères.
Premier instant de poésie dans cette émission.
Voilà,
et il y en aura tant d'autres.
Donc je fais un petit écart là, évidemment, mais c'est juste pour montrer qu'il y a aussi de ça dans Borat. Vu qu'il y a des caméras cachées, t'as des trucs auxquels tu t'attends vraiment pas, quoi. Et donc c'est aussi pour ça que j'aime ce film, je terminerai par là, c'est parce que ça repousse des limites, et moi j'aime quand on repousse des limites. Et ça va tellement loin dans la connerie que ça en devient mais hilarant. Et je crois aussi que la police est intervenue 90 fois pendant le tournage du film, parce que les gens, pour des raisons plus ou moins graves, mais les gens appelaient la police pour dire « Il y a un grand monsieur kazakh qui fait un peu n'importe quoi dans la rue, venez s'il vous plaît. » Donc voilà, avant de dire pourquoi, avant de gloser plus sur le film, qu'en avez-vous pensé, messieurs?
Je me permets de commencer, parce que quand tu as remis Borat à tirer, quand on a tiré Borat lors de la dernière émission, j'avais un peu la flemme de revoir ce film. C'est un film que j'avais vu il y a quelques années, je pense il y a 6 ou 7 ans, et j'en avais gardé un souvenir assez moyen, en fait. Je me rappelais de quelques scènes, donc une dont on va reparler, évidemment, une scène d'anthologie.
Gardons le meilleur pour la fin.
C'est ça, digne du casse du Cercle Rouge, évidemment. Mais je m'étais arrêté un peu à cette image début où il se moque de ses habitants, là, de ses paysans. C'est censé être le Kazakhstan, c'est pas du tout le Kazakhstan, ça se passe en Roumanie. Ça joue sur beaucoup de clichés. J'avais trouvé ça un peu lourd, en fait. Et en revoyant après d'autres films de Sacha Baron Cohen, j'ai trouvé ce côté un peu genre dans Aligé ou dans Le Dictateur. C'est des fois, genre, il pousse un peu trop les blagues, genre, il reste trop longtemps dessus. Alors que moi, j'adore l'humour absurde, mais je trouve que c'est un autre type d'humour qui me parlait un peu moins. Et pourtant, là, je l'ai revu, j'ai trouvé ça en fait assez plaisant. C'est inégal. Il y a des moments qui sont beaucoup plus réussis que d'autres, des moments un peu qui traînent en longueur. Mais surtout dans Borat 1, qui je trouve, en tant que film, on reparlera après de sa série, mais en tant que film, ouais, qui est son meilleur film. Je trouve qu'en fait ça se tient assez bien, en fait. Ça tient une heure et demie, ça a une ligne directrice absurde, hein, dans ses étapes, mais je trouve que ça se tient assez bien, qu'on retient d'assez bons moments, et c'est assez marrant, en fait, et c'est un peu c'est ce qui est réussi, quoi. C'est que c'est marrant et ça a gardé une trace dans la culture populaire. Donc je suis assez content de l'avoir revu.
Moi, c'est un film que j'avais pas vu avant de préparer cette émission, et je suis content parce que cette plongée, moi, dans l'Amérique profonde, elle m'a bien plu. Voilà, on se moque de la culture américaine, on se moque, il s'attaque à tout le monde, hein, jusqu'à la sphère bourgeoise avec une, ouais, scène dans un dîner mondain qui se passe pas très bien. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est que, en se faisant passer pour un con, il révèle celle des autres, si on peut dire.
Exactement.
Et c'est ça l'objectif du film, et à ça, j'ai totalement adhéré. Après, je dois avouer que je l'ai encore plus apprécié après avoir vu le 2.
Oui.
Parce que dans le 2, j'ai mieux compris quels étaient les moments un peu plus vrais, des moments faux. Alors que dans le 1, j'étais complètement embrouillé. Oui. J'ai pas su repérer les vrais, des faux moments.
Je pense que c'est ça qui est réussi dans le 1, ouais, aussi, c'est que la frontière entre film de fiction et documentaire, enfin caméra cachée, est vraiment brouillée.
Elle se voit un petit peu plus dans le 2. Donc on voit le dispositif.
Est-ce que c'est si important que ça de le voir? Est-ce que le plus important, c'est pas, oui, juste de rire, peu importe ce que t'as sous les,
oui,
yeux?
Oui, parce que du coup, pour reparler du 2, moi je trouve que ça change tout. De savoir à quel moment les gens sont piégés, mmh, ou pas. C'est-à-dire que quand tu sais que quand il va dans un magasin de vêtements qui demande le rayon des robes non qui veulent dire oui, et que tu sais qu'en face elle est piégée, la femme, et qu'elle rigole à ça et qu'elle va lui proposer une robe avec un décolleté, ça change tout. Parce que du coup tu vois la vraie connerie des gens en face, et tu vois les masques tomber à ce moment-là. Moi, je pense que c'est important quand même de discerner un petit peu le vrai du faux. Après, c'est très bien qu'il soit brouillé, ça nous fait nous poser des questions aussi.
Je trouve que dans le 2, en fait, c'est pas tant le fait que ça soit vrai ou faux, mais je trouve que ça fait moins spontané, en fait, les blagues dans le 2. Tu sens toujours le dispositif. Ouais. C'est bête, mais ça se voit que c'est filmé avec 3 caméras, donc avec une grosse équipe de tournage. Les gens, des fois, le reconnaissent, donc il y a toute cette question, ouais, du déguisement, où il essaie d'autres déguisements, enfin, il se grime en d'autres personnages qu'il avait déjà fait aussi dans sa série. Et je trouve que ça alourdit un peu Borat 2, en fait. Il n'y a plus cette fraîcheur qu'il y avait dans le 1, où t'es vraiment un gars inconnu, déguisé en kazakh, quoi, avec une grosse moustache, où les gens pensent que c'est vraiment quelqu'un de vrai, quoi. Tandis que 15 ans plus tard, les gens étaient habitués à Sacha Baron Cohen.
C'est pour ça que j'ai choisi le premier du nom, parce que je le trouvais mieux construit, et où là, t'as une vraie lignée, une ligne directrice, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que dans le 2, t'as une scène finale qui est absolument, ouais, incroyable, quoi, qui a beaucoup fait parler, où il piège un...
Rudy Giuliani, donc ancien maire de New York,
ancien maire de New York, et ouais, proche de Trump. C'était pendant l'élection, en, ouais, plus. Bon, on va pas en divulguer, mais Bon, il semblerait que ce monsieur soit assez porté sur la braguette, mais voilà, mais j'ai quand même préféré choisir le 1, parce que moi, au contraire de toi, je suis pas sûr que ce soit si important de savoir, pendant le visionnage en tout cas, ce qui est vrai ou ce qui est faux. Parce que ouais, l'important, c'est juste de rire sans se demander. Alors après, évidemment, je suis le premier, après le film, à être allé voir sur Internet qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Et en fait, j'ai assez halluciné de remarquer que quasiment tout était vrai, en fait. Oh, à part une ou deux scènes, par exemple, quand il fait tout tomber chez un marchand d'art, voilà, ouais. Un antiquaire. Bon, il voulait pas casser des choses de valeur, donc ça, c'était mis en scène. Il y avait d'autres choses. Mais il me semble que la scène de rodéo,
oui,
elle est vraie. Ça, j'ai halluciné, quoi.
Oui.
Et que l'organisateur du rodéo, donc qui a des propos horribles, et il regrettait pas d'avoir dit ça, il regrettait juste d'avoir été piégé, mais pas de passer pour le gars qu'il est, quoi.
À savoir que l'organisateur du rodéo a dit à Sacha Baron Cohen, donc à Borat, de couper sa moustache parce qu'on pourrait le confondre avec un musulman. Et il lui a refusé une bise parce que ce serait pour les homosexuels, quoi. Et il assume totalement ses propos quand on l'a interviewé après, bon. Ok, mais là, t'es un peu dans la tristesse et l'énervement quand tu vois ça. Et ce qui est génial avec Borat, c'est que 30 secondes plus tard, t'es écroulé de rire parce qu'il se fout de leur gueule. Il va, au milieu du rodéo, il va déformer l'hymne américain en disant que l'Amérique, c'est de la merde. Et ça a créé une émeute, il se fait huer. Et ce qu'ils ont dit après la production, c'est que heureusement qu'ils sont vite partis parce que ça allait partir vraiment en baston.
Bah surtout dans Borat, pardon, je t'ai coupé, Louis, mais dans Borat 2, la scène où ils chantent dans une manifestation pro-armes et anti-confinement, où apparemment vraiment il a dû être évacué, heureusement qu'il a engagé des gardes du corps, et camouflé dans une sorte d'ambulance privée, parce que vraiment les gens commençaient à se ruer sur lui, ce qu'il avait reconnu.
Mais du coup, pour revenir sur ce que disait Lucas, en effet, moi, j'ai pas été dérangé de rire de Borat, parce que finalement, tu rigoles moins de ses conneries à lui que de celles des autres qui est révélée finalement. En plus, tout le monde en prend pour son grade. Et surtout, comme tu le dis, moi, il y a plein de moments où j'ai juste soufflé du nez, des moments cons, mais qui étaient drôles. Là, c'est plus des exemples dans le 2 qui me viennent, mais à un moment, il arrive en voiture, t'as sa fille qui arrive derrière et il fait « Ah, j'ai gagné !» Ce qu'il a fait la course, lui, en voiture, avec sa fille, elle, qui était traînée derrière, machin. Ou des trucs... le quiproquo sur l'avortement, des trucs comme ça, sur le bébé. C'est parfois des petits soufflements du nez, des petits quiproquos, des petites blagues, des trucs qui te permettent de respirer un petit peu entre des scènes un peu plus dures où tu vois la xénophobie des gens, où tu vois le racisme de certains Américains, etc., qui sont beaucoup plus lourds à regarder. Mais j'aime l'humour noir et en plus, là, pour le coup, il est essentiel.
C'est ça, il avait trouvé vraiment le bon format pour questionner un peu les autres personnes et les États-Unis. Et je trouve que quand il fait le dictateur, qui en fait a le même propos sur on se moque d'un dictateur, leur cliché du Moyen-Orient, et au final il montre les limites des États-Unis, etc., je trouve que c'est beaucoup moins réussi le dictateur car c'est une fiction.
Ouais, c'est ça.
Et du coup il y a moins de spontanéité, c'est juste des trucs lourds, t'es là, t'es bon.
Le format change tout en fait. Et tout à l'heure, on en parle depuis tout à l'heure comme de la caméra cachée, mais c'est pas de la caméra cachée puisque on appelle ça plutôt de la caméra visible. Parce qu'en fait, l'intérêt de Borat, c'est que il vient avec son équipe de production et il va voir les personnes piégées en leur disant on tourne un reportage pour le Kazakhstan, ce qui évidemment est totalement faux. Et c'est pour ça que les personnes piégées sont pas là en train de se dire mais attends, il y a une caméra quelque part. Non, ils le savent qu'il y a une caméra. Et on pourrait se dire ouais, mais vu qu'il y a qu'une caméra, ils essayent de se limiter un peu peut-être. Mais en fait, pas du tout, et je saurais pas trop l'expliquer. Mais je l'expliquerai ça par le pouvoir de la caméra, le pouvoir que la caméra a sur les gens. C'est qu'ils te sortent des trucs, ou alors ils ne réagissent pas à des choses où ils devraient clairement intervenir.
Bien sûr.
Et c'est un film qui montre aussi, je trouve, le rapport très ambigu et très bizarre que nous entretenons avec une caméra ou un micro.
Et avec les images aussi qu'on voit tous les jours à la télé.
Oui,
ça je pense qu'on en reparlera sur les mockumentaires.
Sur les mockumentaires, oui, en deuxième partie.
Mais en effet, du coup, ça nous renvoie, nous, je trouve, la médiocrité humaine en pleine face, avec désinvolture, cynisme, enfin... On s'en prend plein la gueule, quoi, au final, quand on voit Borat 1 et 2. Et je trouve par ailleurs que le 2 est nécessaire malgré tout, parce que même s'il renouvelle un dispositif qu'on connaissait déjà du coup du 1, il reprend des thèmes du 1 comme le patriarcat, etc., et il vient en ajouter des nouveaux, donc le complotisme, il se fout de la gueule des anti-masques aussi, enfin tout ce qui est incarné dans l'Amérique de Trump et qu'on a pu voir ces dernières années.
C'est ça, et c'est un film aussi qui, comme le 1, se construit par rapport à l'actualité.
Exactement.
Et surtout par rapport à ce qui se passe.
Exactement.
Dans une caméra cachée. Par exemple, dans le 1, il va voir un groupe de jeunes de ghetto, un peu des mecs comme à la Ali G, quoi, et il va les voir d'un air totalement naïf, comme Borat sait le faire, Et il leur dit, ouais, j'aimerais bien m'habiller comme vous. Donc ils lui disent de baisser un peu son pantalon, enfin voilà quoi. Et la scène d'après, il joue de ça et il va dans un hôtel de luxe avec évidemment le froc totalement baissé et
en insultant
n'importe comment.
Et
en insultant, ouais, c'est ça. Et donc évidemment, il se fait virer. Et j'aime bien parce que le film aurait pu être totalement différent en fait selon ce que les personnes piégées auraient pu dire ou ne pas dire.
Et c'est aussi une grande réussite de Sacha Baron Cohen et de ses équipes parce qu'il y avait 400 heures de rush.
Ouais.
En fait, Borat, il a vraiment sélectionné les meilleures parties, celles qui s'imbriquent le mieux entre elles. Et je trouve que dans Borat 2, que je trouve quand même moins réussi, il y a moins de... Non seulement il y a des dispositifs qui sont répétés, mais en plus il y a certaines scènes qui sont carrément ratées, quoi, qui sont laissées au montage. Mmh. Et j'ai trouvé un peu étrange, par exemple la scène où il se déguise en Trump géant. Clairement, genre ça rate de suite. Et je trouve que c'est... Enfin, je comprends pas pourquoi il garde ces scènes. Je trouve que par rapport à Borat, il y a moins de... Comme je dis, moins de spontanéité. Et c'est le cas aussi pour Bruno, où il y a... c'est plus en dents de scie, quoi.
Bruno, je trouve, a en fait la même consistance que Borat. C'est un peu le même film, mais avec un personnage différent. Moi, j'ai trouvé les deux assez égaux. Enfin, j'ai vraiment beaucoup rigolé aussi devant Bruno. Il fait des choses auxquelles on ne s'attend pas. Enfin, et là aussi, en prenant le personnage d'un homosexuel, où évidemment, il exagère tous les préjugés qu'on pourrait attribuer aux homosexuels, là aussi, en fait, il dit énormément de choses sur l'homophobie. Là, c'est encore aux États-Unis, d'ailleurs.
Et du coup, en préparant cette émission, pour qu'Adeline soit un petit peu avec nous, moi, j'allais regarder Une vie de Sacha Baron Cohen,
évidemment,
fait par Brut. Et on sait qu'Adeline travaille pour Brut. Et justement, on voit quelqu'un... En fait, il reprenne pas mal de bouts d'un discours qu'il a tenu pour l'Anti-Defamation League. Et on voit que c'est en effet quelqu'un de très engagé. Et il le dit très clairement, il a utilisé ses personnages pour amener les gens à baisser leur garde et à révéler ce qu'ils pensent réellement. Donc c'est ce que nous, on a compris aussi de Borat et ce qu'on dit depuis le début. Et ça se voit aussi... Maintenant qu'il tient des rôles aussi un peu plus sérieux, je sais que toi tu as vu sur Netflix Les 7 de Chicago,
oui.
Dans lequel il joue Abby Hoffman, donc c'est l'un des 7 militants arrêtés en 1969, un militant anarchiste, oui. Anti-guerre au Vietnam et contre la politique du président Johnson, je crois. Et on voit du coup qu'il s'attache aussi à jouer des rôles un peu plus sérieux, mais toujours, je sais pas, toujours avec une certaine... éthique, bizarrement, c'est un peu bizarre de dire oui. Ça mais après avoir vu Borat, mais c'est quelqu'un en tout cas de très engagé, et on le voit...
Oui, étonnamment, c'est une éthique qu'il garde tout le long de sa carrière, même dans ses rôles les plus sérieux. Il a donc fait des rôles tels que dans... Il a joué pour Tim Burton, donc dans Sweeney Todd, même pour Scorsese, il joue dans Hugo Cabret. Mais au final, ce qui est marrant, c'est que d'habitude, les comiques sont récompensés par des grandes institutions pour leurs rôles sérieux. On pense par exemple à Coluche dans Ciao Pantin, mais c'est le cas pour tous les rôles à Oscar depuis des années, depuis des décennies. Et pourtant, Sacha Baron Cohen, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'a pas été récompensé pour Les 7 de Chicago au Golden Globe, mais il a été récompensé vraiment pour les Borat, à la fois pour le 1 et pour le 2. Donc c'est vraiment qu'il soit reconnu par une industrie qui d'habitude est un peu plus frileuse au niveau des comiques.
Et peut-être juste pour dire que, petite anecdote, moi mon rapport à Sacha Baron Cohen, en fait, il remonte depuis tout petit, parce que c'est lui qui prête sa voix dans Madagascar au roi Julian, le roi des Lémuriens. Et en fait, c'est un personnage qui lui correspond beaucoup. Enfin, quand tu prêtes ta voix à un personnage, souvent, c'est qui te correspond. C'est le roi des Lémuriens, un peu mégalo, mais un peu débile en même temps, qui fait danser son peuple à la moindre chanson, etc. Et qui, finalement, moi, j'adorais ce personnage un peu déjanté, etc. Et je me dis qu'en fait, depuis tout petit, j'étais, sans le savoir, déjà attaché un peu à Sacha Baron Cohen.
Et donc, je crois que t'as pas encore eu la chance de voir Who is America, qui est sa série. Et donc, Lucas, qu'est-ce que tu as pensé de cette série ?
Écoute, alors je vais commencer par autre chose, mais je vais y revenir très vite. J'aime pas le terme de génie pour qualifier des gens.
À part pour Clouseau.
Je le trouve... même pas. Je le trouve... non, mais je le trouve trop galvaudé, ce terme. Et d'ailleurs, je lisais une interview de James Gray dans Les Cahiers du cinéma qui disait aussi que... En fait, y a un génie absolu, ça n'existe pas. Tout, même les Mozart et tout ça... Il y a toujours eu quelque chose avant eux. Ils ont toujours ça reste des monstres, hein. Enfin des personnes très talentueuses. Mais le terme de génie est un peu bizarre. Pourtant, je pense que pour ce qui est de la manipulation, de l'improvisation, de la persuasion, il y a une petite part quand même de génie chez Sacha Baron Cohen, et ça se voit, comme tu le disais, dans sa série Who is America, une mini-série, 7 épisodes de 25 minutes, où là il a créé 5 nouveaux personnages. Et pour pas se faire reconnaître, il se déguise, et les déguisements sont fabuleux. Enfin, on le reconnaît pas, mais en même temps, tu sens qu'il y a un truc qui cloche dans son visage, quoi. Et il va piéger des politiciens américains, C'est très récent comme série.
Ça date de 2018.
C'est ça. Donc pareil, ça repose sur le principe de la caméra visible, c'est-à-dire qu'il dit qu'il retourne un reportage et il se passe des trucs, notamment dans l'épisode 2, mais c'est incroyable, quoi. C'est inimaginable. Il crée un personnage qui est un dirigeant militaire, je crois, du Mossad.
En fait, il se fait passer pour... Enfin, il a l'apparence d'un sergent du Mossad.
C'est ça.
Mais à chaque fois, il précise bien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il dit je suis un agent du Mossad. Pardon, je ne suis pas un agent du Mossad. On dirait qu'il a peur de poursuite ou de...
D'accord,
il précise à chaque
pas,
fois. Il joue sur le terme avec un accent bizarre, quoi, pour ne pas se faire comprendre de ceux qui sont face. Mais il précise quand même qu'il ne se fait pas passer pour un agent du Mossad.
D'accord. Et en fait, le truc avec ce personnage-là, c'est qu'il va chercher souvent des élus républicains, hein, qui sont un peu, on va dire... un peu inquiet sur les questions sécuritaires et identitaires aux États-Unis, on va dire ça comme ça.
Qui sont un peu à droite. Quoi.
C'est ça, et donc dans l'épisode 2, il invite un de ces gars-là, et il lui dit « je vais te faire une formation antiterroriste ». Et il se passe des trucs, c'est-à-dire que cet élu finit par se foutre le cul à l'air en imitant l'accent chinois et en reculant vers Sacha Baron Cohen en disant « je suis homosexuel, je suis homosexuel », en croyant que c'est quelque chose qui pourrait faire reculer des terroristes. Et il le fait. Et après la diffusion, d'ailleurs, il a dû démissionner parce que on peut pas laisser passer ça. Dit comme ça, tu peux pas t'imaginer que c'est vrai, que c'est forcément un acteur, mais non, il le fait vraiment. Et ça tient du génie pour moi de Baron Cohen, c'est-à-dire d'arriver à convaincre des types de faire ça. Et il va même se payer la tête de Dick Cheney. Si tu veux rappeler qui c'est. Dick Cheney, c'est quand même...
Dick Cheney, je crois que c'était un secrétaire d'État.
Vice-président
de Bush.
Sûrement responsable de l'invasion en Irak.
Oui, même tout à fait responsable. Ouais. Même il avait fait un bombardement au Cambodge dans les années 60. Enfin, vraiment un truc...
Un homme, voilà.
Un homme tout à fait respectable. Et donc, il y a eu un super film d'ailleurs d'Adam McKay dessus, avec Christian Bale qui joue le rôle de Dick Cheney.
Vice.
Ça s'appelle Vice et c'est sorti... Il y a 2 ans, c'était avec. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, mais qui apparemment est très connu aux États-Unis. Évidemment, c'était le vice-président. C'est vraiment une énorme ordure qui, en plus, est immortelle. Il a fait je ne sais pas combien de crises cardiaques, d'AVC, etc. Il est encore vivant. Et donc, lui, Sacha Baron Cohen l'interroge sur l'apparence d'un sergent du Mossad. Il se met même un petit selfie avec lui.
Il lui fait signer une bouteille qui sert à torturer
c'est
les
ça.
Gens. Enfin,
il fait signer une bouteille qui sert au waterboarding des gens. Et il lui parle de la torture et Dick Cheney répond un peu en rigolant. Quoi.
Tu sens qu'il est gêné, mais en même temps...
Il assume quand même.
Voilà, et c'est tout l'intérêt de la caméra visible. C'est que même ce mec, il sait qu'il est dans un reportage. Du coup, il dit, bon, il est peut-être un peu bizarre, mais c'est pas une caméra cachée, c'est pas possible. Et c'est quand même fou d'arriver à... Il faut du courage quand même pour aller s'attaquer à un Dick Cheney. Et même dans la dernière scène de la série, à O.J. Simpson, quoi. Et donc, qui est un acteur de la... Enfin, un acteur, non, mais un...
Oui, c'était un...
Non, c'était un joueur, mais je veux dire un acteur d'une des plus grandes affaires criminelles des États-Unis. Il va se foutre de sa gueule de la manière la moins subtile possible.
Oui, bon. C'est pas toujours subtil, c'est blague.
C'est pas la subtilité qui caractérise l'humour de Sacha Baron Cohen. Mais en fait, c'est tellement pas subtil que ça en devient subtil. Je sais pas s'il y a une gymnastique là-dessus qui... Enfin, moi, ça me fait marrer.
Et avant de passer au jeu, peut-être juste recommander Borat pour une scène qui est au milieu. Et qui
évidemment,
est génial.
On n'en a pas parlé.
Je t'avoue que c'est la scène que j'avais retenue du film, même la première fois, qui m'avait marqué. Oui. Et là, vraiment, j'ai explosé de rire en la voyant. Et c'est vraiment une scène c'est une scène d'action, en fait. Oui. Une scène d'action, d'amour et de haine entre le producteur et Borat lui-même. Est-ce que tu te souviens de cette scène, Louis?
Oui.
Oui.
La scène de combat dans le...
Que dire? Oui, ils sont tout nus et ils se battent. Voilà.
C'est ça.
On en dira pas plus, mais je suis assez difficile en termes d'humour au cinéma, mais là, j'ai pleuré de rire. Tout simplement.
Et ben, ça m'étonne pas. Et donc, tu as pleuré de rire. Mais est-ce qu'on va pleurer maintenant de tristesse face au jeu que nous a concocté Victor? Car une fois de plus, c'est Victor qui s'occupe du jeu et il va tout nous expliquer après le petit générique.
Nous allons jouer à un jeu.
Ah, not a chance.
Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
1, 2, 3.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Je connais un jeu auquel je gagne toujours.
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours. But don't
play. Et donc après le jeu de la dernière fois qui était un blind test déformé, que nous as-tu préparé, Victor? Enfin, je fais semblant que je ne le sais pas, mais on y a joué avant.
C'est vrai qu'on a fait une petite préparation. Le jeu qu'on va faire aujourd'hui, c'est un quiz, un super quiz, avec 6 thèmes qu'on a préparé, enfin qu'on a préparé non, que le Trivial Pursuit a préparé en 1992, car c'est...
Trivial Pursuit, édition Genius.
Édition Genius Cinéma.
Et c'est là qu'Adeline va me manquer. Je vais prendre la raclette tout seul.
Ah non, 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 non.
Franchement, je pense que je vais prendre une petite branlée aussi.
Franchement, ah, tout le monde, tout le monde va prendre là pour le coup. C'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y aura pas de jaloux là-dessus. On a donc 6 thèmes. On aura bien évidemment le cinéma français, Hollywood et étranger, films de genre, derrière l'écran, stars féminines et stars masculines. Le petit truc qui est rigolo, c'est que vous avez pu tester les thèmes un petit peu avant et vous rendre compte que certains thèmes sont plus simples que d'autres. Et donc du coup, si l'un d'entre vous prend un thème, les autres ne pourront pas prendre ce même thème. C'est pour ça que j'ai du coup mon petit générateur de nombres qui va me permettre de dire qui commence et qui... Et qui va donc jouer ensuite. Et on commence avec Louis. C'est lui qui va commencer, qui va avoir
quel
l'honneur de
choisir.
Et je vais prendre derrière l'écran.
Oh, ça c'était très très alors... étonnant, dis donc. Ensuite, ce sera donc notre petit Nicolas. Qu'est-ce que tu veux?
Cinéma français.
Cinéma français. Et du coup,
il reste quoi?
Les films de genre. Il va te rester films de genre. Il va te rester Hollywood et étrangers. Star masculine, star féminine.
Star masculine.
Star masculine.
Oh, public.
Aïe, aïe, aïe. Ça commence très, très mal. Mais bon, commençons tout de suite avec Derrière l'écran, pour notre cher Louis, qui a réalisé Les 7 mercenaires.
Quentin Tarantino.
C'est raté.
Mais non.
C'est... Aïe, 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 c'est une seule réponse, c'est la première, donc c'est faux. Mais si tu l'as quand même pour la forme.
Non, attends, vas-y. Pourquoi j'ai un trou comme ça? Non, je sais pas du tout, je choque.
Nicolas.
C'est... Fleischer?
Non.
Non.
Non, je sais plus. Tu l'as pas non plus?
Non, je sais plus.
C'est John Sturges.
Ok.
Ou Sturges.
Putain, je confonds avec
les 8 salopards. Punaise.
Aïe, aïe, aïe.
Les villes, si je commence comme ça.
Très, très dur. Ne t'en fais pas, la deuxième question sera peut-être plus simple. Qui a écrit la musique pour Un Américain à Paris?
J'ai pas le nom du compositeur.
Tu l'as pas? Personne n'est là ici?
Leonard Bernstein?
Non. Non plus.
Non plus.
C'était Gershwin, de prénom genre.
Voilà. Ça va pas m'empêcher de recommander le film.
Très bon film. Mais... Prochaine question. Qui a chanté Pinball Wizard dans le film Tommy?
Facile. Ah. Franchement, c'est tellement facile que j'ai pas envie de le dire.
Franchement, c'était Elton John, c'est con.
Parce qu'évidemment, évidemment.
Tu l'avais?
Ah non, plus du tout.
Bien sûr, tout le monde l'avait ici, je suppose. Et vous aussi, les auditeurs, vous l'aviez. Prochaine question, avant-dernière question, attention, on est sur un score honorable de 0 points actuellement.
Mais quelle humiliation.
Pour quel rôle Peter Weller a-t-il passé 5 mois avec un mime japonais pour apprendre à simuler les gestes d'un robot?
Je sais pas.
Bah, les gestes d'un robot.
Non, franchement.
Non, pas d'idée ici?
Non.
C'était pour Robocop.
Ah, ah bon, oui.
C'était peut-être pas forcément évident, mais...
Bon, allez, pour l'honneur.
Allez, pour l'honneur, la dernière, le point qui sauvera tout. De qui est la musique de La Guerre des Étoiles, Les Dents de la Mer et E.T.? Ça devrait aller.
Comment ça, pour qui est la musique?
Non, de qui
de
est
qui
la...
Ah, de qui est la musique?
Ouais, qui est le compositeur?
Ah non, Star Wars, Les Dents de la Mer.
Oh, quand même.
Louis.
Non, je sais pas.
Enfin, bon, pas.
Si.
Le nom du compositeur?
Ouais.
Non. Qui a fait la musique de...
Un des plus connus.
Le plus connu.
Franchement, le plus connu, ouais.
Ennio Morricone?
Ah
non.
Enfin, je sais que je dis une bêtise, mais...
John Williams.
Ah, John Williams. Oh, carrément. Bon.
Bon. Eh bien, ça ne sera pas Louis.
C'est un zéro pointé. On dirait l'OM en Ligue des Champions.
Ah, y a...
Je représente bien mon club.
Ouf. On enchaîne tout de suite avec Nicolas sur cinéma français.
Allez.
C'est bien ça. Alors, partons tout de suite. Dans quel film de 1992 Mathilda May joue-t-elle aux côtés de Patrick Bruel?
Casser la voix.
Et c'est pas du tout ça. C'est toute peine confondue.
Aucune idée.
Aucune idée de...
Mais si tu chantonnes, je pense qu'on peut te donner un point.
Non, alors j'ai déjà évité de faire Philippe Manœuvre lors d'une émission précédente.
Et on est tous très tristes que tu ne l'aies pas fait d'ailleurs. Quelle œuvre de Gustave Flaubert, Claude Chabrol, a-t-il réalisé avec Isabelle Huppert en 91?
Madame Bovary.
C'est un point.
C'était disponible sur Netflix.
C'était pour toi.
Bravo. Très bon. Donc, au moins, tu ne seras pas dernier ex aequo. C'est une grande victoire pour l'humanité. Troisième question. Comment s'appelle Sammy Frey dans César et Rosalie?
Je l'ai vu il y a pas longtemps.
Juste son prénom.
Oui, bah
César.
Bah non, César, c'est Yves Montand. Rosalie, Romy Schneider. Et ce cher Sammy Frey, Victor?
Eh, pas du tout. Il s'appelle David.
D'accord.
On était pas loin, il y avait le V, il y avait le I. Mais c'est bien tout. Quatrième question, que contient la valise dans la traversée de Paris?
Du porc.
Oui, tout à fait. Oh. Un deuxième point ici, et peut-être le troisième point magique sur cette dernière question. Que fait Christian Clavier pendant son temps libre dans Mes meilleurs copains?
Mes meilleurs copains, il écoute du jazz?
Et non, vous avez une idée? Il écrit un bouquin, un livre.
Évidemment.
Et c'est là qu'on va bien rigoler, du coup, sur c'est notre dernier thème. Tu m'as donc bien dit star masculine.
C'est ça.
C'est bien ça. On commence tout de suite avec combien de films Fred Astaire et Grace Kelly ont-ils tourné ensemble ?
4.
C'est 2 fois moins.
2.
C'est bien joué, ça fait 1 point. Deuxième question tout de suite. Qui s'est réellement fracturé le crâne en sautant d'un immeuble dans Mr. Dynamite ?
Ah, je crois que je le sais.
Mr. Dynamite, tu préfères.
Je ne l'ai pas vu.
Jackie Chan ?
C'est Jackie Chan, effectivement. Ouais. Tu n'auras pas de points, quand même. Donc, toujours à 0.
Oui, peux, merci de le rappeler.
T'as fait 3 points, Nicolas, c'est ça ?
Non, j'en ai fait 2.
2, ok, bon. Tout est encore jouable. Oh, ouais, si tu fais un sans faute, là, tu peux finir premier. Quel incorruptible est né en Écosse ?
Putain. Ah. Sean Connery.
Ouais, c'est ça. Il y en a un qui jubilait à côté. Ok, 1 point.
Putain, j'allais dire Mel Gibson.
Peut-être un ex-aequo sur cette question-là. 4e question. Quel acteur a battu tous les records en nécessitant presque 2 jours pour être maquillé comme l'homme tatoué en 69 ?
L'homme tatoué. Oui. C'est le nom du film.
C'est le nom du film.
Bien, je n'en ai aucune idée.
Ce que vous savez dans l'audience ?
Pas du tout.
C'est Rob Steiger. Je n'ai d'accord. aucune idée qui est cette personne.
Rob Steiger qui joue Napoléon dans un film qui s'appelle Waterloo et avec lequel je parlais avec Lucas.
J'en avais aucune idée, tu vois. Et dernière question, du coup. Quel Français détient le record de vedette masculine la plus petite ? Quel Français détient le record de vedette masculine la plus petite ?
Je comprends pas la question de vedette.
Vedette masculine qui est
le plus petit acteur. Je sais pas.
Question, c'est tout pourri comme question.
C'est rien, le mec de Fort Boyard.
Passe-partout. Ouais. Non, c'est un mec qui s'appelle Max Linder.
Max Linder, mais attends.
Il est pas si petit, Max Linder.
Je vous rappelle que c'est 92. Hein. Donc ça se trouve, il y a eu plus petit d'ici là.
Max Linder, c'est l'équivalent de Buster Keaton.
Oui, je vois qui c'est Max Linder, mais
c'est pas étonnant. Étonnant.
Bon,
merci.
C'était une très bonne publicité pour cette émission.
Non, mais vous avez des experts en face de vous pour vous parler cinéma.
Sur 5 questions, on a un 2, un 1 et un 0.
Je m'en vais toujours pour John Williams.
Genius,
je m'excuse auprès des auditeurs encore.
Je trouve que vos scores sont relativement ok pour la difficulté des questions, pour le coup.
Eh bien, on s'excuse auprès des auditeurs aussi pour la musique que nous allons diffuser. Car tu parlais tout à l'heure de Madagascar, Louis. Et donc, on va écouter Sacha Baron Cohen sur une musique de Hans Zimmer dans le film Madagascar. Et donc vous écoutez toujours la séance du dimanche sur Radio Campus Paris et nous parlons de Borat, de ce film Borat donc avec Sacha Baron Cohen que vous entendiez à l'instant dans le rôle d'un lémurien. Et tout de suite nous allons parler donc du genre du mockumentary, aussi connu en français sous le nom de documentaire, car nous l'avons expliqué, Borat est tourné avec des caméras visibles mais n'est pas un film de fiction, c'est un faux documentaire avec des vrais personnages, même si la réalité est un peu plus compliquée que ça. Et donc j'aimerais vous poser la question pour... quel est votre rapport au genre du documentaire ? Est-ce que c'est un genre que vous...
Documentaire.
Est-ce que c'est un genre que vous affectionnez, que vous avez découvert récemment ? Louis, je commence avec toi, je crois que tu as vu un très bon film avec Benoît Poulevard récemment.
J'ai vu un bijou, j'ai vu C'est arrivé près de chez vous. Et on est obligé d'en parler quand on parle du faux documentaire. juste pour faire un tout petit speech pour ceux peut-être qui ne l'auraient pas vu, Benoît Poulevard joue le rôle de Ben, qui ne travaille pas dans la vie. En fait, son travail, c'est de tuer des gens. Si possible des gens modestes pour pas que ça fasse trop de bruit et pouvoir les voler derrière. Et une équipe de tournage vient filmer comme ça son quotidien et son travail très peu louable. Et finalement c'est une parodie de striptease, je sais que t'aimes beaucoup parce que tu nous en recommandes régulièrement, une parodie de striptease sur 1h30 avec la Belgique au centre du film, hein, y a l'accent qui est à peine amplifié, y a les briques, c'est superbe. Et puis bah, surtout, c'est d'un cynisme absolu, c'est un humour noir qui est parfaitement bien distillé. Moi, j'ai trouvé ça, les scènes où bah, du coup, il découpe ou il tue des gens pour leur voler leur argent, je trouvais ça presque aussi percutant et jouissif qu'un Pulp Fiction, par exemple. J'ose le dire. Et puis, bah, y a des scènes formidables. Moi, j'ai en tête du coup le monologue qui tient sur l'urbanisme et les grands ensembles. Enfin, il va pour découper une vieille dans un de ses immeubles et juste avant, il prend le temps pendant 5 minutes de te parler de l'urbanisme, de tous ces grands ensembles qu'ils construisent et tout. C'est complètement fou. Moi, j'ai adoré. Après, il y a une scène qui est un peu plus insoutenable, une scène de viol assez insoutenable. Mais je vois la ref à Orange Mécanique, donc ça passe tout de suite déjà un petit peu mieux quand on sait que c'est une référence.
Mais oui, c'est une scène super dure.
C'est rappelle, une scène très dure à voir, malgré tout.
Voilà. J'ai vu il y a peut-être une dizaine d'années, un peu moins. Mais oui, c'est une scène qui traumatise, oui. Qui marque. Oui. Mais c'est un film que j'aime beaucoup, qui est vraiment très cynique, Poulvord est génial dedans. C'est sûrement son meilleur rôle, en fait. C'est un de ses premiers, un de ses meilleurs de rôle. Car il est impeccable dedans. On dirait presque qu'il ne joue pas.
Et en fait, je trouve qu'on pourra peut-être parler plus tard des autres objectifs. Notamment, moi, je reviendrai peut-être un petit peu sur Zelig de Woody Allen, qui a un objectif très précis avec le genre du mockumentaire. Là, dans C'est arrivé près de chez vous. Le seul objectif, bah, j'ai l'impression que c'est le cynisme et c'est l'humour noir pur et absolu.
Et donc Lucas, toi, est-ce que c'est un film que tu apprécies ?
Non, moi j'ai trouvé ça nul en fait. Oh, et je l'ai carrément. Vu avant-hier pour les besoins d'émission parce que je n'avais pas vu ce film qui a tout de suite gagné le statut de film culte à sa sortie, qui a au moins le mérite d'avoir fait découvrir Benoît Poulvord parce que je crois que c'est effectivement c'est son premier film. Mais en fait, comme tu l'as dit, c'est une parodie de striptease et tout le problème est là, c'est que c'est impossible de parodier striptease. Parce que ce qui s'y passe est déjà
bien sûr.
Tellement sordide, absurde, tout ce que tu veux, que ça en devient impossible. Et ils ont quand même essayé de le faire en prenant bah, le chemin de la facilité, c'est-à-dire en montrant quelqu'un qui tue des gens, qui est un tueur en série, qui vole, en montant comme ça dans des choses horribles. Donc j'ai pas trouvé ça drôle, je me suis pas marré une seule fois. Et pourtant j'ai trouvé quand même quelques moments sympas, mais en fait dès que... Son activité de tueur en série n'était pas du tout ressentie. Tu disais, ouais, son discours sur les grands ensembles, ça c'était sympa. Il y a aussi ce moment avant où il veut aller bouffer une moule frite avec les techniciens et ils veulent pas, ils sont gênés de refuser. Tout ça, je trouve, ça marche bien. Mais après, ça se perd complètement dans ce truc où il tue des gens. J'ai pas trouvé ça drôle, non.
Bon. Mais sinon, du coup, peut-être, vu que je voulais parler de Zelig, de Woody Allen, pour le coup, bah, du coup, là aussi, pour resituer peut-être un petit peu, c'est donc c'est un faux documentaire sur Leonard Zelig, donc un homme caméléon dans les années 20, années 30, qui du coup peut prendre l'apparence des gens qu'il côtoie. Et en fait, donc, le film se présente sous l'aspect donc d'un documentaire, ça met des images d'archives, vraies et fausses, et ça les mêle donc à des témoignages vrais et faux, là aussi. Et là, l'objectif, pour le coup, c'est de rendre crédible une histoire qui est complètement fantaisiste. Et ça nous montre, en fait, que les images ne parlent pas d'elles-mêmes, qu'on les fait parler, soit par le montage, soit en les récontextualisant, soit en y ajoutant des témoignages et donc en parlant sur ces images. Et cette éducation-là, par le mockumentaire, je la trouve très importante, surtout aujourd'hui, à l'heure des fake news, et alors qu'il y a un documentaire, si j'ose dire ça, qui s'appelait Hold Up, qui est sorti il y a quelques mois. Oui. Je trouve ça très important. Là, l'intérêt, il est purement sur la forme, je trouve, dans Zelig. Pas tant sur le fond, ou à la limite, parler du conformisme et du manque de personnalité, mais ça va pas beaucoup plus loin. L'intérêt, il est vraiment sur la forme, et je trouve que l'intérêt du mockumentaire, c'est justement de déguiser notre regard comme ça sur les images, sur ce qu'on veut nous montrer et ce qu'on peut faire dire de ces images. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je suis d'accord, c'est vraiment le montage au centre d'un questionnement et d'une éducation à l'image que les gens n'ont pas forcément. On peut le voir, tu citais malheureusement ce documentaire complotiste qui a eu du succès. Et c'est un genre qui s'adapte à d'autres genres, si je peux dire. Par exemple, c'est un genre qu'on retrouve beaucoup dans l'horreur, même si après on peut discuter est-ce que c'est un documentaire ou pas. Mais il y a le projet Blair Witch que j'ai découvert hier et qui est très célèbre pour son procédé. Donc je trouve que c'est un procédé aussi qui s'adapte très bien, en plus de la comédie, au film d'horreur. On peut citer aussi Rec, Cloverfield. Et un film que j'avais beaucoup, beaucoup aimé à l'époque, c'est District 9. Je sais pas si vous l'avez vu.
Oui, moi aussi j'aime bien. Alors qu'il est assez détesté, enfin décrié ce film. Ah bon, et moi aussi j'avais beaucoup aimé. Ouais.
Bah, c'est un film très bien où en gros ça se passe à Johannesburg. Et là, le racisme sud-africain est tourné vers des aliens qui sont arrivés, qui sont réfugiés en fait sur la Terre. et qui sont parqués dans des camps, etc. Et on a, je crois que c'est un journaliste, enfin, le héros du film va devenir lui-même peu à peu alien et donc se fondre à la cause. Et c'est tourné aussi, je sais plus exactement comment, mais avec une sorte de, je sais plus si c'est des caméras cachées, mais c'est tourné un peu comme un documentaire.
Ouais, avec une caméra à l'épaule, très journalistique, ouais.
C'est ça, et c'est très réussi.
Et après, le journalisme aussi, c'est important, parce que je trouve, moi, c'est un truc qui se retrouve aussi dans une certaine forme de journalisme. Moi, je pensais à, en préparant l'émission, j'ai repensé à Action Discrète sur Canal+, je sais pas si vous connaissiez.
Non.
C'était justement des petites caméras cachées, comme ça, faites par une équipe, et qui, justement, servaient à se foutre un petit peu de la gueule des gens et nous interroger sur les images, sur la façon dont on peut les détourner, finalement. Et donc je pense que c'est dans le cinéma, mais c'est aussi parfois à la limite, je rebondis juste là-dessus, du journalisme en fait, presque.
Et c'est ça, justement, des documentaires soi-disant journalistes qui sont des documenteurs en fait, car ils sont totalement faux. On fait beaucoup parler d'eux, on pense malheureusement à Opération Lune,
oui, génial.
Qui est l'argument numéro un de tous les platistes, donc ils pensent que la Terre est plate, et qui est un documentaire justement qui a été fait par Arte pour questionner ce rapport aux images, et qui maintenant a été pris au premier degré par beaucoup, malheureusement beaucoup de personnes.
Alors que l'intention du réalisateur était justement de montrer qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec les images et faire croire n'importe quoi.
Et cela, ça me fait penser aussi à un film de Peter Jackson, qui, vous savez peut-être, mais Peter Jackson donc, a réalisé Le Seigneur des Anneaux, Les Hobbits, etc., a commencé dans des séries B fauchées, mais qui ont eu beaucoup de succès. Et son premier film, qui n'était pas en tout cas un film d'horreur ou une série B, c'était un documentaire qui s'appelle Forgotten Silver, et que je recommande, qui est disponible sur YouTube, je crois, en intégralité, où il fait semblant de découvrir dans le jardin d'une amie à sa mère des bobines de films, et de découvrir en fait que un génie du cinéma néo-zélandais avait vécu il y a 100 ans sur l'île, et avait inventé en gros le premier travelling, avait voulu faire un blockbuster, donc après on voit des images de ce soi-disant blockbuster muet de l'époque, avec des travelling, des effets spéciaux, etc. Et vu que ça a été financé par le ministère de la Culture néo-zélandais, et diffusé à la télé sans autre information, beaucoup, beaucoup de personnes ont cru que c'était un vrai documentaire, et que vraiment un des premiers inventeurs du cinéma a été néo-zélandais. Et donc il y a même des institutions qui ont pensé à nommer certaines écoles d'après cet homme et tout. Et ça montre bien en fait la puissance du cinéma quand il est bien fait. Et c'est un documentaire que je recommande vraiment, qui je trouve est tout à fait représentatif du genre.
Ouais, c'est un genre que j'aime beaucoup, le mockumentaire aussi. Que je trouve malheureusement pas encore assez présent, hein, finalement.
C'est assez rare.
En tout cas, il y a quelques grandes références. T'as parlé de C'est arrivé près de chez vous. Il y a aussi Spinal Tap sur un oui. groupe de métal. Mais déjà, c'est dur aussi de dire qui a vraiment inventé ce procédé. On sait qu'il y avait Woody Allen qui est arrivé très tôt. Il y a Agnès Varda qui a aussi fait ça dans un film qui s'appelle Documentaire, d'ailleurs. Je sais pas si elle a appelé ce film, si le mot existait déjà, ou si on parle de documentaire en référence à ce film-là, où là aussi il y avait de petites touches de réalité dans un film de fiction. Mais bon, on a eu une tentative quand même au cinéma français l'été dernier avec Tout simplement Noir.
Ah oui c'est vrai.
Qui est un documentaire, hein, et j'en avais parlé ici, j'avais pas trouvé ça génial, mais j'avais vraiment aimé la tentative, au moins, je trouve que ça fait du bien. Et puis on peut aussi noter pour finir que... Le mockumentaire s'est décliné en série avec The Office, qui est pour moi en tout cas la meilleure série humoristique, mais une de mes séries préférées, et qui là joue parfaitement avec l'aspect faux reportage, faux documentaire. Donc, évidemment, c'est de la caméra à l'épaule, c'est on voit la perche dans le champ, on joue avec les techniciens. Ça en fait, ça peut entraîner tellement de situations, tellement de réactions. Comme je parlais tout à l'heure, que ça, pour moi, c'est un genre qui est encore, mais pas du tout exploré, quoi. Il y a des tonnes de choses à inventer encore.
Et ben récemment, on a eu La Flamme sur Canal+, qui est aussi un documentaire.
Après, c'est plus une parodie, non ?
C'est une parodie, mais
après,
c'est
la limite.
C'est ça, la limite est assez fine, puisque les caméras sont présentes sur le plateau.
Oui.
Et c'est filmé comme si c'était une vraie
télé-réalité.
Une vraie télé-réalité. Et je trouve ça assez réussi et assez drôle avec avec Jonathan Cohen. Donc on espère que tous ces films qu'on a cités vous ont donné envie de voir des documentaires. Est-ce que vous avez peut-être un dernier film que vous voulez recommander, dont on n'a pas eu le temps de parler ?
Non, mais regardez Borat. Et regardez Who is America aussi, je sais pas où vous pouvez la trouver.
Ce que je vais faire juste après cette émission.
C'est très court.
Je crois que c'est en VOD sur Canal+, mais à confirmer. Et donc maintenant, on va vraiment recommander des films, parce que c'est l'heure des recommandations et du tirage au sort.
Oui.
Donc, est-ce que Louis, tu as des petites recommandations pour nos auditeurs ?
Oui, mais déjà, je voudrais notifier, on en parlait dans notre hors-série consacrée donc, au Festival des Étoiles Documentaires de la SCAM, c'est Delphine et Carole Insoumuses, oui. Donc, de Callisto McNulty. C'est un documentaire qui revenait sur le combat féministe mené par Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos par et dans l'audiovisuel. Et je voulais juste notifier, pour ceux qui l'auraient pas vu depuis notre émission, qu'il est maintenant disponible sur Arte. Donc, foncez le voir si c'est pas déjà fait. Et ma recommandation, ça serait un podcast, pour une fois, ça s'appelle Wheel of TFTC, donc oui. Tales from the Click, avec l'équipe de Tales from the Click. Donc il y a Jean-Baptiste Toussaint, le plus connu, mais il y a aussi...
La plus belle voix de l'Internet français.
Oui.
Après toi.
Trop de flatterie. Mais donc aussi dans l'équipe, Guillaume Brouze et Aurélien Chapuis. Et puis, en fait... ils sont à chaque fois, donc chaque podcast accompagné d'un ou deux invités, et ils discutent autour d'un film, ils distillent des petites infos, des anecdotes, c'est aussi un petit peu comme ça que marche Test Round de Click, et c'est toutes les deux semaines, et finalement selon les invités ou selon le film, on passe une très bonne heure et demie, donc à écouter en parallèle de la séance du dimanche, et notamment une émission sur, c'était en février je crois, sur Total Recall,
oui.
dont tu nous avais parlé lors d'une émission, avec Sébastien Abdelhamid, que j'aime bien. Donc voilà, à écouter.
Oui, je trouve que c'est intéressant parce que des fois ça part un peu trop en podcast, discussion entre potes. Des fois ça s'égare un peu, quoi. Mais je trouve ça assez agréable. Il y a des super jeux aussi.
Oui.
On peut s'inspirer. Des fois, d'ailleurs, on a les mêmes jeux sans faire exprès car ils sont évidemment pompés à halluciner, je crois. Et toi, Lucas, donc une recommandation ?
Oui, je vous recommande un film qui s'appelle L'emploi du temps de Laurent Cantet, qui sort en 2001. Qui est sorti en 2001. Laurent Cantet qui a réalisé Entre les murs et Ressources humaines. Donc toujours une façon un peu naturaliste de filmer le travail, le monde du travail, le monde professionnel. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il filme le non-travail, puisque ça raconte l'histoire d'un homme qui perd son emploi du jour au lendemain, mais qui va faire croire à sa femme et à toute sa famille qu'en fait, il a toujours cet emploi et qu'il travaille toujours. Et c'est assez sombre, mais c'est hyper intéressant. Donc voilà, l'emploi du temps.
Et toi, Nico ?
Et moi, j'en profite qu'Adeline ne soit pas là pour faire un petit peu plus de recommandations.
Allez !
Donc tout d'abord, on a parlé du Kazakhstan dans cette émission, qui est un pays qui est assez méconnu.
Tu vas réussir à rebondir là-dessus.
Mais oui, car j'ai lu un livre sur le Kazakhstan, c'est un pays qui m'interrogeait, car c'est un pays qui est assez intéressant quand on connaît son histoire.
Oui, alors que Sacha Baron Le Cohen dépeint les Kazakhs comme des
paysans.
Voilà. D'ailleurs, ils ont très mal réagi, visage dans lequel ça a été filmé.
Il y a une vidéo YouTube où on voit les habitants qui réagissent à Borat.
Évidemment, ça prend au millième degré. Quoi.
Et finalement, évidemment. Ça leur a fait une bonne pub, et c'est aussi pour ça qu'ils ont autorisé que le 2 sorte quelques années plus tard.
Le gouvernement kazakh avait interdit puis accueilli à bras ouverts le film.
Après
Borat.
Le succès du...
Bref, mais du coup, recommander un film qui s'appelle La tendre indifférence du monde de Adil Khan Yirzanov, qui est un film super beau, qui est déjà esthétiquement qui est magnifique, et qui reprend un peu l'univers de Camus, mais au Kazakhstan, dans des décors magnifiques. Et c'est aussi un genre de thriller. Il a sorti, j'ai oublié là de suite le nom, mais il a sorti un film il n'y a pas longtemps, La nuit venue. Non, pas La nuit venue, mais il a sorti un film au cinéma en 2020, quand les cinémas étaient ouverts. Et donc c'est un univers assez particulier, mais assez fascinant. J'avais vu à la Semaine de la Critique en 2018, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je recommande aussi, donc tu parlais de Delphine et Carole Insoumuses, qui est visible gratuitement, sur France 5, donc c'est seulement jusqu'au 5 mai. Donc vu que l'émission est diffusée le 2 mai, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de temps. Mais il y a la série de Bertrand Tavernier sur le cinéma français, qui est en 8 épisodes de 52 minutes, et qui est donc plus longue que son film, mais là il prend le temps de ne plus s'attarder sur d'autres cinéastes, et je trouve ça au final un peu plus digeste comme rythme, parce que c'est des petits épisodes d'une heure, souvent découpés en deux parties, où il revient sur des carrières entières de cinéastes, sur des anecdotes, etc. Et ça donne envie évidemment de se plonger dans tout ce cinéma français qui est au final assez méconnu, et même en France, car on a un peu du mal à y avoir accès, hormis en édition DVD.
Puis par Bertrand Tavernier, c'est une bonne façon de s'y
plonger.
Mais
c'est ça, c'est une bonne façon de s'y plonger. Et donc justement, dans quel film on va se plonger, nous, dans la prochaine émission ? Je laisse encore une fois Victor, qui j'espère aura la main totalement innocente, piocher le film.
Et le film, du coup, de la prochaine fois sera, là c'est vraiment au pif pour une fois, hop, on regarde tout de suite, et c'est Borat 2, pas du tout, c'est Make Tube My Love.
Encore bien, c'est Lucas, j'imagine.
La roue tourne à tourner, encore une fois, ce n'est que mes petits papiers. Eh bien oui, Make to My Love, un film de Kechiche qui est sorti en 2018, je crois. Et je parlais de naturalisme avec Laurent Cantet, on va continuer là-dedans. Puisque c'est un film qui ne raconte finalement pas grand-chose, mais qui le fait avec une veine naturaliste qui est captivante, puisque c'est des jeunes sur une plage pendant 3 heures, ou qui vont en boîte. Mais évidemment, il y a plus que ça, et on en reparlera.
Ah oui, bah avec grand plaisir, écoute.
Oui, je sais que tu apprécies ce film.
Je crois qu'on avait parlé lors de l'émission sur les teen movies.
Sur les teen movies, évidemment, mais là, ça permettra
d'aller plus loin. Et toi, Louis, tu avais mis quoi comme film ?
J'avais mis Les plages d'Agnès Varda, okay, pour faire une émission sur elle, mais c'est pas grave. La semaine prochaine, je mettrai Varda par Agnès.
Moi, j'ai mis Blowout de Brian De Palma, parce que j'aimerais qu'on parle un peu de Brian De Palma. Et Adeline avait mis quel film, Victor ?
Elle avait mis Le château de l'araignée de Kurosawa, je crois.
C'est ça. Pour parler un peu de cinéma japonais. Eh bien donc, la séance du dimanche est déjà finie pour aujourd'hui. C'est passé assez vite. Quand on parle de sujets comme Borat, ça passe toujours vite. N'hésitez pas à nous suivre donc sur Spotify et toutes les plateformes de podcast pour ne rater aucun épisode. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram sous le nom de Vitamine Ciné. On se retrouve très vite puisque la prochaine émission sera diffusée le 30 mai. Et il sera la question de Make to My Love. Et pour cela, on se quitte sur une magnifique musique qui est Disco Dance dans Borat.
À très vite.
À très vite.